Chers frères et sœurs, si Karine et Hervé ont retenu ce texte, c'est à cause, pour autant que ce soit une cause, peut-être grâce à l'amour. C'est sur l'amour qu'ils voulaient attirer votre attention, parce qu'ils considèrent que c'est un élément essentiel et au cœur de l'éducation qu'ils ont envie de prodiguer à Florian. Et de fait, l'amour est également au cœur de la foi chrétienne. Tu n'auras donc pas à vivre un grand écart entre la vie familiale et la vie chrétienne. Et cela en raison même de la prédication de Jésus, qui en fait le point central de la vie. Et après tout, il ne serait pas tout à fait faux de résumer tout l'Évangile à l'amour du prochain, coordonné à l'amour de Dieu. Toutefois, il fallait bien qu'il y ait un tiré à un moment donné. Toutefois, l'amour est loin d'être ce qu'il a pu devenir au fil des siècles. Et je déplore dans une certaine mesure que même au sein du christianisme, l'amour ait pu parfois devenir une sorte de guimauve faite de bons sentiments, ou du moins de sentiments que l'on voudrait bons. L'amour, parfois, pour les chrétiens, serait la capacité à apprécier finalement tout et son contraire, et de tout accueillir avec jovialité, au nom de l'amour. Et il m'arrive parfois d'avoir l'impression que des chrétiens sont surtout insensibles à ce qu'ils vivent. Je veux dire par là qu'il nous arrive parfois de rencontrer des personnes qui prennent tout ce qui leur arrive d'une manière égale, d'une humeur égale, comme si finalement rien ne les touchait, et comme si tout était à mettre sur le même plan. Et j'ai parfois l'impression qu'il est possible finalement d'aimer son prochain comme on peut, par exemple, aimer les îles flottantes. Alors, évidemment, dans la perspective de Jean 15, l'amour prend une toute autre tournure. Car, je vous ai rappelé le contexte, nous sommes dans le dernier repas que Jésus prend avec ses disciples. Dernier repas parce que quelques instants plus tard, quelques heures plus tard, il sera arrêté, puis condamné et mis à mort. Et cela est déjà en quelque sorte envisagé par Jésus lui-même lorsqu'il organise ce repas et lorsqu'il prononce ses paroles. L'amour prend donc une autre tournure, une tournure autrement plus tragique. Et bien évidemment, ce n'est pas cette tournure-là que nous voudrions pour nos enfants, surtout lorsqu'ils sont en jeune âge. Mais c'est aussi cet amour-là dont il est question dans la Bible. Il y a une phrase d'ailleurs qui sonne d'une manière particulièrement tragique et qui donne, en première lecture, une atmosphère sacrificielle à ce passage. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Que de sacrifices au nom de cette parole. Là, évidemment, l'amour cesse d'être un bon sentiment pour devenir un engagement total et même une abnégation, et qui peut donner le sentiment que notre mort, dans certaines situations, est vraiment la voie la plus haute, la plus majestueuse et la plus conforme à l'Évangile. Mais regardons cette phrase au plus près du texte biblique. Et donc, jetons un petit coup d'œil dans la version grecque pour entendre ce qui nous y est dit. En essayant de ne pas projeter une pré-compréhension sacrificielle, non seulement de cette parole, mais finalement de tout l'événement de Pâques. Le texte grec, si on essayait de le restituer de la façon la plus littérale qui soit, pourrait être rendu de la manière suivante, me semble-t-il. Nul ne peut avoir de plus grand amour que de placer son âme sur ses amis. C'est un petit peu différent tout de même. D'un côté, nous avons une traduction classique, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Déjà, c'est sa vie dont il est question et pas sa mort. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le texte grec, il est question de placer sa psyché, que l'on traduit effectivement souvent par vie. Mais le terme psyché, nous le connaissons et nous avons une manière bien à nous de le traduire, c'est l'âme. Un mot certes un peu vieilli, mais un joli mot de notre vocabulaire religieux. L'âme, un mot qu'on n'utilise plus beaucoup depuis le 21e siècle, mais un mot qui existe, et un mot qui peut-être mériterait de retrouver de nouvelles jeunesses. Il n'est plus en tout cas question ici de comprendre l'amour comme le fait de devoir s'abîmer pour ses amis. L'amour n'est plus en balance entre la vie et la mort. L'amour est ici tout entier assumé par l'âme qui doit être placée sur ses amis. Alors peut-être que les choses ne sont pas plus claires une fois qu'on a parlé de l'âme, me direz-vous. Que vient faire l'âme dans cette histoire de l'amour? Cela nous permet peut-être de comprendre que l'amour est une dynamique, du moins si nous avons un regard à peu près clair sur ce que signifie l'âme, psyché en grec, nephesh en hébreu. Le problème, c'est que bien souvent nous considérons que l'âme est une sorte de particule de Dieu que nous aurions en nous, particule ou molécule de Dieu, si vous voulez des choses plus sophistiquées. Certains aimeraient considérer que l'âme est une sorte de partie ou d'espace sacré que nous posséderions chacun et qui ferait de nous un être humain à part entière. L'âme, comme cette substance d'origine divine qui serait en nous et qui, évidemment, subsisterait à notre mort physique et qui, par là même, nous assurerait une sorte d'immortalité. Mais la psyché, le psychisme, l'âme, ce n'est pas une chose. Ce n'est pas une partie de nous-mêmes. Ni le biologiste, ni le théologien ne serait capable d'isoler un quelque chose qui serait l'âme et que l'on pourrait mettre sous le microscope ou au bout de la plume du théologien. L'âme n'est pas dans le registre du physique, mais du symbolique. Dans les textes bibliques, l'âme est une manière de désigner l'être vivant qui se tient face à l'Éternel. C'est lorsque un être vivant se tient face à l'Éternel qu'on peut dire que c'est une âme. Moïse, évidemment, est la figure exemplaire de l'homme qui se tient devant Dieu et qui, par cette posture, devient une âme, c'est-à-dire un être tendu vers ce qui a un caractère absolu, vers ce qui a un caractère universel. Comme lorsque l'enfant baptisé découvre qu'il n'y a finalement pas que son père et sa mère dans la vie, qu'il y a une famille élargie et des préoccupations qui vont bien au-delà de ce que l'enfant a pu découvrir jusque-là dans l'univers familial, dans l'univers scolaire. L'âme, c'est lorsque nous ouvrons à plus grand que nous-mêmes, à plus exigeant. C'est lorsque notre vie est transcendée, pour reprendre le vocabulaire religieux. Les prophètes de la Bible hébraïque seront eux aussi des figures de l'être tendu vers Dieu, et non pas seulement occupés par leur seule personne. Et le croyant, l'apprenti croyant qui prie, est un être tendu vers Dieu. C'est une âme. L'académicien François Schenk s'est décidé à parler de l'âme dans son dernier livre, De l'âme. Je dois dire que je n'ai pas été tout à fait satisfait de ce qu'il écrit de l'âme. Lorsqu'il passe en revue les différentes traditions spirituelles qui utilisent le concept d'âme, ni quand il cessait à définir ce qu'est l'âme. S'il écrit des choses assez intéressantes sur le fait que l'âme est ce qui forge l'unité de l'être vivant, de l'être humain, il me semble que sa compréhension de l'âme reste quand même assez matérielle, une sorte de quelque chose. Un quelque chose que nous posséderions et qui ferait de nous quelqu'un. Pour autant, ce livre accomplit son projet, qui est celui d'exposer l'âme. Mais il n'y réussit pas lorsqu'il essaie d'analyser le concept d'âme, d'en définir les contours, mais plutôt lorsqu'il fait un pas de côté et lorsqu'il s'expose lui-même. François Schenk parvient finalement à nous faire observer l'âme toutes les fois où il laisse de côté l'analyse et lorsqu'il se met à se raconter ou à raconter son environnement. Et c'est alors que nous comprenons que l'âme n'est pas quelque chose que nous aurions, mais que l'âme est une manière de parler de l'être tendu vers la vie dans toute sa splendeur. Pour le dire tout simplement, François Schenk n'a pas une âme, il est une âme. Et c'est finalement bien plus réjouissant. Cela, j'aimerais vous donner une illustration par quelques phrases qu'il écrit au sujet de sa passion pour l'aube. Et il raconte sa première contemplation d'une aube. C'est en Chine. Il écrit ceci. Après une journée de pénible ascension, nous nous approchons dans la sonnalité des grands conifères multicentenaires. Nous entrons dans cette communion avec l'univers le plus archaïque, sentiment d'originel. Accueillis par des moines dans un temple, nous nous délestons de tout. La nuit est déjà tombée. Une ablution amène à cascade un repas frugal. Nous nous abandonnons à un sommeil bercé par les clochettes suspendues au coin de l'auvent. À 5 heures, nous grimpons jusqu'à une terrasse au perché, formée opportunément par de gros rochers plats. Les uns debout, d'autres assis, riant, bavardant. Nous sommes une trentaine à attendre là, dans le noir épais que traversent de temps à autre des oiseaux de nuit lourds de pressentiments. Plus loin, on devine une rangée de montagnes faisant un rempart qui sépare ce côté-ci et l'au-delà. Brusque silence, quand un trait de lueur trace l'horizon. Coup de gong nous frappant au cœur, coup d'épée déchirant les ténèbres. La lumière fait signe, la vie s'annonce, plus rien ne peut l'empêcher. Pathétique, mais sûr, centimètre par centimètre, le disque lumineux émerge des ombres. Happé par le sacré, les yeux inondés de larmes, nous nous taisons. Jusqu'à ce que l'astre s'offre de toute sa rondeur, indéniable, aussi impérieux qu'irrésistible, C'est alors que nous explosons en applaudissements, en hurrahs, comme pour faire chorus avec les nuages qui s'encrasent, resplendissant de tous les coloris dont l'univers est capable. Il me semble que ce récit met en évidence la qualité de présence de François Cheng au monde. Sa qualité de présence à ce qui arrive, son ouverture au monde, et je dirais sa sensibilité au réel, que l'on trouve bien sûr dans l'évocation poétique, ça c'est son talent d'écrivain, mais aussi dans sa capacité à pouvoir repérer des détails qui seront ensuite communicables, des signes qui font sens et qui donnent à ce moment, à cet événement, une ambiance toute particulière qui dit l'attention de cette trentaine de personnes vers ce qui arrive, vers ce qui advient. Selon ses propres mots, l'univers le plus archaïque est présent en compagnie de ce qui est en train d'advenir. Je dirais que par son récit, François Cheng montre qu'il est une âme tendu qu'il est vers la vie dans toute son épaisseur. Plongeons en quelque sorte comme Florian ses racines dans cette terre féconde des anciens, mais aussi déployant ses branches vers ce ciel d'où tout est là à attendre. François Cheng est tendu vers la vie dans toute son épaisseur et dans toute sa prodigalité. François Cheng est une âme au sens d'un être bien vivant pour lequel la vie n'est pas simplement un spectacle chaotique ou désolant, car l'âme est capable de donner du sens à ce qui arrive. Et il est alors capable de donner non seulement du sens, mais aussi une place à toutes ces choses qui l'environnent. Et il est alors dans cette situation du rédacteur de Genèse 1, qui raconte la création comme le fait de pouvoir mettre des mots sur ce qui est et sur ce qui devient. Une âme, c'est toute personne capable de faire du tohu-bohu originel, du chaos que nous avons à disposition, une création, quelque chose d'éminemment vivant. Eh bien, il n'y a pas de plus grand amour que de faire profiter nos amis, nos prochains, de notre capacité à transformer le chaos en création, de transformer le tohu-bohu en espace vivable. Il n'y a pas de plus grand amour que de placer au-dessus de nos amis notre capacité à nous émerveiller du monde et à notre capacité à rendre le monde autrement plus merveilleux qu'il ne peut apparaître en première instance, à en repérer les forces vitales et à y discerner du sens. Il n'y a pas de plus grand amour pour un professeur que d'offrir à ses élèves non seulement les règles de sa matière, mais aussi les raisons pour lesquelles cette matière est essentielle à ses propres yeux. Il n'y a pas de plus grand amour pour les parents que de faire découvrir à leurs enfants leur propre goût de la vie qui les a conduits à offrir la vie, à la faire venir au monde, cet enfant. Il n'y a pas de plus grand amour pour un citoyen que de passer sur les responsables politiques son désir de justice, son désir d'état de droit. Il n'y a pas de plus grand amour pour un artisan que de faire valoir sa passion et son savoir-faire auprès de son chef d'entreprise. Il n'y a pas de plus grand amour que de rendre compte de son espérance à une personne qui se sent à bout de course, qui n'a peut-être plus vraiment envie de chercher encore un emploi, ou qui n'a peut-être plus vraiment envie de continuer à prendre soin d'elle-même. Il n'y a pas de plus grand amour que de placer son âme, c'est-à-dire sa tension vers l'ultime, sur celles et ceux qui pensent être revenus de tout, qui pensent avoir fait le tour de la question, et qui sont non seulement désolés, mais épuisés, que la vie n'ait plus rien à offrir. Alors en vérité, la vie reste profondément prodigue, en surprise, en émerveillement, et en raison de se réjouir. Oui, placer notre vie, notre âme, notre désir, sur ceux qui se sont enfermés dans une sorte de vie mécanique, qui se répète à l'infini, mais qui n'a plus grand-chose à offrir en termes de nouveauté. Il n'y a pas de plus grand amour que d'offrir sans retenue son aspiration à la vie en plénitude, à ceux qui finalement sont comme accablés par un quotidien devenu difficile à supporter. Il n'y a pas de plus grand amour, voyez-vous, que de ressusciter le désir en exposant son propre désir, en ne retenant pas jalousement ce qui nous attire vers l'avant, ce qui nous donne de bonnes raisons de se lever le matin. Il n'y a pas de plus grand amour que de ne pas faire de rétention de ce qui nous anime, de ce qui fait de nous une âme, et parfois même une belle âme. Ce que Jésus a appris du Père, c'est cette faim de vivre, cette faim F.A.I.M., cette soif de vivre pour éviter toute ambiguïté, cet appétit pour le bonheur et la grâce dont parle le psaume 23, et qui ne sont pas simplement réservés aux prédications, mais qui peuvent être la réalité de chaque existence, qui peuvent ressusciter le quotidien ou faire de notre ordinaire ce qu'il y a de plus extraordinaire. Et bien cela, Jésus n'a pas voulu le garder pour lui. Il n'a pas joué au mandarin qui maintient ses étudiants dans la captivité d'un enseignement qui serait distillé au compte-gouttes. Il ne fait pas de rétention d'informations, mais il distribue tout, il donne tout, il offre tout. Et en ce sens, il libère ses disciples de la situation de servitude, de la situation de dépendance à l'égard du maître qui saurait, alors qu'eux ne savent rien, offrir ce que nous savons, mais aussi offrir ce que nous sommes, offrir notre désir, offrir notre ambition, offrir notre exigence, partager notre curiosité pour susciter à la génération suivante cette curiosité si saine qui peut donner le goût de vivre, le goût de gagner en intensité de vie. Ne laissez personne dans l'ignorance des choses qu'il faut savoir pour mener sa vie, mais aussi ne laissez personne dans l'ignorance que la vie peut être portée à son incandescence. Un enfant qui vient au monde, même lorsqu'il a déjà passé quelques années, ignore tellement de choses sur le sens de ce qui arrive. Ce monde est tellement incompréhensible s'il n'est pas décrypté, si nous ne sommes pas au bénéfice de quelques paroles qui font sens et qui nous aident à découvrir cette part non matérielle de la vie, comme par exemple l'amour. L'amour qui peut être cette tension créatrice entre deux personnes, mais qui n'est pas palpable, qui n'est pas visible, mais qui peut être reconnu par la poésie que nous offrons à nos plus jeunes, par toutes ces métaphores, par toute la symbolique qui permet petit à petit d'accrocher au plus près de cette vérité qui n'est pas tangible, mais bien réelle. En plaçant notre âme sur ceux dont nous croisons la route, en mettant à leur disposition notre désir immodéré pour les choses somptueuses, pour ce qui est susceptible de nous enthousiasmer, nous serons féconds pour eux. Nous les aiderons à rendre notre vie plus fructueuse et la leur par la même occasion. Et j'aimerais tout simplement finir par cette phrase de Ralph Emerson. Si nous avons aidé quelqu'un à respirer plus aisément par notre présence, alors nous pouvons considérer que nous avons réussi notre vie.